Merci de votre invitation. Je suis donc Olivier Moucheboeuf. Je représente l'Union Sport et Cycle, qui est la fédération des professionnels du sport et du loisir, des entreprises. C'est 1400 entreprises, c'est 80 000 salariés, c'est 500 marques et c'est environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc à ce titre, nous menons chaque année un observatoire du marché des cycles. Et notamment, nous avons pu dresser une sorte de sectorisation, définitivement ça ne marche pas, une sectorisation de l'usage du vélo en France, hein, quel est le comportement des Français vis-à-vis du vélo. Alors déjà, nous pouvons extraire un chiffre, c'est que 66% des Français de plus de 15 ans déclarent avoir fait du vélo dans l'année, ce qui représente un certain potentiel. Vous voyez néanmoins dans cette petite cartographie que la pratique du vélo en France est essentiellement loisir. Donc plus de 50%. On a une partie vraiment loisir, c'est-à-dire la pratique dominicale quand il fait beau, en famille, voilà, de courte distance, de courte durée. On a la partie tourisme également, qu'on voit à 10%, qui est vraiment l'itinérance, je pars sur mon lieu de vacances, je vais louer un vélo, c'est 10% déjà. Donc la pratique loisir, tourisme, on va dire qu'elle est largement majoritaire en France, devant le sport, le pays du Tour de France, qui ne pèse que 29%. Il n'y a pas que le Tour de France, hein, il y a aussi les descendeurs, les pisteurs, les bicrosseurs, une nation sportive très importante, mais néanmoins, derrière la pratique loisir. Enfin, je dirais la pratique, ce qu'on appelle vélo-taf ou naveteur, ceux qui vont travailler tous les jours à vélo ne représentent que 9% des Français. 9%, c'est un chiffre clé puisque c'est justement l'objectif de part modale du gouvernement d'ici 2 ans, notamment en ville. Aujourd'hui, on est très loin, on est à peine à 3%. Donc cette distribution, elle pourrait encore évoluer l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, au même moment, je vous donnerai une répartition complètement différente, puisque c'est un marché qui est en pleine mutation en ce moment. Et la période sanitaire, évidemment, participe à cette redistribution des cartes, puisque, comme vous le savez tous, beaucoup de gens ont retrouvé un intérêt au vélo lors du déconfinement. En tout cas, ça participera certainement à la croissance du vélo, en tout cas à la reprise de la croissance du vélo, puisque c'est un marché qui est pérenne. Hein. Il a augmenté de 10% en valeur l'année dernière. On a passé les 2,3 milliards d'euros. C'est un marché donc qui est porté par l'électricité, hein, porté par l'assistance électrique de toutes les façons. On le verra tout à l'heure dans le marché, le vélo à assistance électrique prend des parts. Mais aussi dans l'accessoire, puisque les gens, on le voit bien, augmentent aussi la valeur, le prix de vente moyen augmente, hein, les vélos à assistance électrique sont relativement chers, mais aussi on s'équipe plus, hein, on pratique plus, plus longtemps, plus fréquemment, donc on s'équipe plus, le casque anti-vol, les bagageries, etc., etc. Donc le transfert du transfert vers du classique à l'électrique est vraiment très visible. Et on voit déjà en termes de chiffre d'affaires, puisque déjà en 2019, le vélo à assistance électrique pèse 45% des vélos vendus. Vous imaginez la marge de progression quand on voit que nos voisins belges et hollandais sont déjà à 40% de quantité de vélos à assistance électrique vendus. Donc on a encore beaucoup, beaucoup de progression. Il faut s'attendre à beaucoup, beaucoup de progression des VAE encore. Ça ne marche pas, ça. Je parlais de transfert des ventes de classique à électrique. Alors on le voit bien sur ce petit graphique. À gauche, vous avez le volume, à droite, la valeur. Le VAE caracole en tête, hein, puisque lui progresse partout les ventes. Quand les autres familles type mobilité, ville et vélo tout chemin régressent, et VTT régresse également, depuis de nombreuses années le VTT régresse inexorablement, mais on va voir plus tard, trouve un nouvel élan grâce à l'électrique. Seul le vélo de route continue de tirer son épingle du jeu, puisqu'effectivement, c'est un milieu qui est plus traditionnaliste, plus conservateur, et probablement que les innovations actuelles ne sont pas encore à la hauteur des attentes des usagers. Ça se développe énormément, hein, l'intégration, la légèreté. Ça a beaucoup progressé ces dernières années, mais ce n'est pas encore à la hauteur. Mais on va forcément trouver des chiffres similaires dans le vélo de route AE que ceux qu'on va trouver dans le VTT AE aujourd'hui. Par exemple, sur 388 000 VAE vendus cette année, en 2019, vous voyez que le VTT AE représente déjà 22% des parts de marché. La route est beaucoup plus petite. Néanmoins, on peut considérer que le segment sport à assistance électrique a augmenté de 37%, ce qui est quand même considérable. Quand la mobilité a augmenté évidemment de 9% seulement. Mobilité, j'entends mobilité, tout ce qui est vélo tout chemin à assistance électrique, vélo de ville à assistance électrique ainsi que pliant. Alors, vous notez une petite tranche verte toute seule là-bas, les autres AE. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont les cargos. On en entend beaucoup parler en ce moment, mais ça reste encore très minoritaire. Néanmoins, son développement va passer par l'accélération des politiques cyclables qu'on connaît depuis le déconfinement. Puisque le cargo pose quand même beaucoup de questions en termes d'encombrement, hein. Il faut peut-être revoir la taille des pistes cyclables, hein, le rayon des virages ainsi que les intersections, puisque quand vous êtes aux commandes d'un cargo, évidemment vous avez moins de visibilité sur la droite ou sur la gauche puisque votre roue avant est beaucoup plus loin devant. Donc, c'est des petites choses comme ça qui vont faire que le cargo trouvera plus naturellement sa place demain dans les centres urbains, puisque c'est la solution idéale pour ce qu'on appelle le dernier kilomètre. Et on le verra plus tard, il y a une très très forte demande. L'autre point qu'on peut trouver dans cette tranche verte, c'est les speed bikes. Ce qu'on appelle les speed bikes, c'est-à-dire des vélos à assistance électrique capables de vous emmener à plus de 45 km/h. Mais nous considérons que ce n'est pas notre marché, d'une part parce que c'est un véhicule à moteur, c'est une autre réglementation, il faut une immatriculation, une assurance, un casque de moto. Et c'est un produit qui ne trouve pas son public parce qu'il est plus cher qu'un 50 cm3 thermique, moins d'emport, hein, moins de capacité d'emport, plus compliqué. J'en profite pour faire une petite parenthèse, puisque malheureusement aussi, l'un des éléments, des facteurs qui fait que le speed bike ne se développe pas, c'est qu'on débride des VAE 25 km/h. Et ça, c'est une pratique qui est complètement interdite depuis 2019, et punie sévèrement par la loi, qui pourrait, malheureusement, si on laissait faire, stopper la dynamique du VAE dans le futur, puisque si la Commission européenne décidait de changer de réglementation pour la sécurité des personnes, ça pourrait avoir des impacts dramatiques sur le quotidien des Français. Avec. Alors, c'est l'enjeu. L'enjeu, je le disais, le cargo, à travers le cargo, mais pas que, à travers le VAE, ben, c'est l'enjeu de demain, c'est pas le sport. Le sport, il va se développer tout seul, les gens sont prescripteurs, ça va se développer de lui-même. En revanche, la mobilité, et en particulier la mobilité dans les entreprises, il y a encore beaucoup de travail, puisque aujourd'hui, je vous ai fait une petite infographie, aujourd'hui c'est facile quand vous travaillez, quand vous êtes dans votre entreprise, vous êtes salarié, vous devez vous déplacer, bien, on pense que vous pouvez louer une voiture, prendre un taxi, prendre un billet de train, prendre un billet d'avion, mais rien n'est prévu pour le vélo. Donc c'est en route, c'est en cours, les choses bougent. Hein. Le plan vélo du gouvernement a accouché quand même de pas mal de mesures. Vous avez le forfait mobilité durable qui est entré en vigueur cette année. Vous avez la défiscalisation de flottes de vélos dans les entreprises. Vous avez également la mutation du marché qui va vers la location et le partage, qui fait que pour ceux à qui c'est pas accessible d'avoir un VAE, ben, on peut au moins le louer. Tout ça contribue à des nouvelles mobilités demain. Et il faudra vraiment penser au vélo dans l'intermodalité. Alors, L'Union Sporadicycle a justement, attendez, l'Union Sporadicycle a justement porté un projet hyper intéressant en ce sens qui s'appelle Vélogistique. C'est un programme C2E, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un certificat d'économie d'énergie. Et c'est, le concept, c'est de faire un test en grandeur réelle. C'est-à-dire qu'on a proposé à des entreprises d'essayer le vélo pendant, on les a mis à disposition gratuitement, en 6 à 12 mois. Et ils essayent le vélo en substitution du véhicule thermique pour voir si c'est viable chez eux, dans leur écosystème. Et aujourd'hui, par exemple, nous avons des géomètres, où nous avons des transporteurs légers qui sont tout à fait satisfaits du programme et ça va se développer encore dans les mois à venir. Voilà pour les enjeux. Quelles sont les perspectives? Et j'arrêterai avec ça. Les perspectives, bien malheureusement, le Covid va marquer forcément un temps d'arrêt dans le développement du vélo et du vélo à assistance électrique, au moins en 2020. Néanmoins, la croissance, elle est là, elle va reprendre, la question est quand. Vous avez peut-être vu dans la presse que, effectivement, le déconfinement a permis très clairement aux magasins, aux revendeurs, de respirer et de rattraper le retard accumulé pendant le confinement. Donc, il y a eu vraiment une ruée dans les magasins, les gens se sont équipés pour ne pas prendre les transports en commun, pour ne pas prendre la voiture. Ça, c'est certain. En plus, nous avons mis en place avec la FUB le coup de pouce vélo qui a permis à 700 000 vélos d'être réparés, d'être remis en circulation. Je parle bien de remise en circulation, pas d'entretien d'un vélo courant. Donc ça a aussi rapporté des gens et des pratiquants sur le terrain. Donc les perspectives, forcément elles sont bonnes, mais on ne sait pas trop vraiment. Quand est-ce que ça va démarrer? Donc vous voyez sur ce graphique que le VAE est en train de rejoindre le vélo traditionnel. Il est en passe de le dépasser. Il va le dépasser. On ne sait pas trop vraiment quand, puisque le Covid marque un temps d'arrêt. Nous avons anticipé une légère baisse, à l'instar de nos confrères du deux roues motorisées ou de l'automobile qui annoncent du moins 25%. Nous sommes plutôt confiants puisque les chiffres du premier semestre sont plutôt bons. Néanmoins, nous ne pouvons pas présager de la fin de l'année. Donc voilà, la situation économique est telle que nous ne pourrons pas être certains d'être en positif. Voilà. Surtout que nous venons d'années très, très positives, donc les comparaisons seront encore plus difficiles. Néanmoins, sur ce graphique, vous voyez que nous sommes très optimistes puisque le traditionnel va rester stable selon nos prévisions et les vélos électriques vont prendre la totalité du marché. Hein. On va arriver à 1 million de VAE adultes d'ici les JO, d'ici 2025. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.
Voilà, Olivier, donc vous nous entendez, hein, je crois. De là où vous êtes. Donc effectivement, si vous avez des questions, je pense que vous allez formuler, hein, et je les retransmettrai en fait à Olivier, de manière à simplifier en fait la technique. Vous avez compris que voilà, de manière à ce que nous restions connectés, il est en fait préférable que ce soit le plateau pour l'instant qui pilote l'ensemble des échanges. Donc si vous avez peut-être des interrogations à l'adresse d'Olivier par rapport aux éléments d'information qu'il nous a présentés, la parole est à vous. Première question étant toujours la plus difficile, on le sait tous. Doit-on oser ? Alors, pendant que vous cogitez, peut-être une précision, Olivier, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, quant à la part d'activité dans l'entreprise. Aujourd'hui, le vélo dans l'entreprise, c'est-à-dire l'usage du vélo comme outil de locomotion pour l'entreprise, vous y percevez un élément fort de cette courbe de développement que vous présentiez tout à l'heure ? Ce peut être vraiment un vecteur d'accélération ?
Oui, très, très clairement, et à travers le VAE, parce que évidemment, le vélo traditionnel, c'est très bien, c'est pas cher, c'est économique, c'est pas nouveau, on l'utilisait déjà le siècle dernier largement, mais le VAE, c'est vrai que ça permet beaucoup de choses, ça permet de faire de plus longues distances, ça permet d'arriver sans être trempé de sueur, et donc ça permet à plein de gens de repenser la mobilité différemment, et notamment à travers le vélo, avec un vélo. Et puis les incitations politiques, évidemment, la défiscalisation d'une flotte de vélos, bah, c'est intéressant et beaucoup d'entreprises ont compris que c'est pour le bien-être de leurs salariés, que finalement ils sont moins absents, plus facilement à l'heure, moins stressés, parce que le temps de déplacement est finalement toujours le même, il n'y a pas d'aléa, contrairement au transport en commun ou au véhicule, à l'automobile. Donc c'est tout bénéf. C'est tout bénéfice. Donc les entreprises jouent de plus en plus le jeu et ça va se développer.
Est-ce qu'on ne va pas arriver par contre à un phénomène connexe d'engorgement, alors dans ce cas-là, des voies cyclables? Parce que si on fait un transfert de la route vers le vélo, on va se retrouver avec des mêmes problématiques. C'est une préoccupation aujourd'hui qui ressort dans les débats.
Ah bah, très clairement. Vous savez, moi je vous appelle depuis Paris. Paris, ça devient l'enfer pour faire du vélo. Mais heureusement, bon, en l'occurrence, il se trouve que la maire de Paris est plutôt pro-vélo, donc les coronapistes vont être pérennisées pour la plupart, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais néanmoins, effectivement, il va falloir vraiment développer le réseau cyclable. Alors, vous avez entendu que la ministre a dégagé 200 millions d'euros, justement, notamment pour le continuum des pistes cyclables. Donc nous, on l'approuve dès demain. Mais il y a encore beaucoup à faire.
Et puis une dernière question aussi sur la notion du prix. Est-ce que le gonflement de ce marché peut laisser entrevoir un amoindrissement des coûts? Aujourd'hui, c'est un investissement, un vélo, fût-il électrique. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup que plus de demandes égale des prix amoindris?
Excusez-moi, je n'ai pas entendu la question.
Je disais, est-ce que l'augmentation de la demande et davantage de souhait d'avoir un vélo, même s'il doit être électrique, est-ce qu'on peut s'attendre de cette demande à ce que les prix, eux, plutôt aillent vers la baisse et un amoindrissement du coût d'acquisition ou de location de vélo?
Alors, en matière de vélo classique,
les deux, oui.
Probablement pas, puisque en réalité, la qualité des vélos augmente globalement, notamment à travers la norme qui est obligatoire en France. On n'a plus des vélos vraiment très bas de gamme qui sont vraiment pas chers du tout. Et au contraire, on va vers des vélos de plus en plus sûrs. En vélo à assistance électrique, c'est la même chose, mais en plus, il y a beaucoup d'innovations. Aujourd'hui, la plupart des vélos à assistance électrique, par exemple, ont une batterie intégrée. C'est un plus, ça a un coût. C'est un plus pour plein de raisons, en termes de répartition des masses, en termes de sécurité, je parle par rapport au vol, en termes de look, tout simplement, hein, pour le plaisir même de contempler son vélo. Donc tout ça, ça a un coût, et évidemment, ça fait que augmenter au contraire le baisser. On n'est pas encore à un niveau de volume de VAE vendu permettant une baisse significative des prix, parce que là, en ce moment, on est pas ascendante de qualité et de développement technique. Plus tard, certainement, il y aura un fléchissement.
D'accord, très bien. Je me retourne, une mince ce temps. Je vais vous laisser formuler la question et je la retransmettrai à Olivier.
Là, on a parlé du marché, des usages.
Oui.
Est-ce que monsieur a une vision de la place de la France dans la production, la fabrication des équipementiers? Est-ce que la France est un pays à la pointe ou en retrait par rapport aux autres pays? Je parle à la réindustrialisation, la filière France.
Alors, Olivier, je vous traduis la question. On a parlé usage, on a parlé marché. Qu'en est-il de l'industrialisation du vélo? Est-ce que la France est aujourd'hui à la pointe dans la fabrication, la conception, l'assemblage, ou est-ce qu'elle est plutôt à la traîne si on regarde à l'échelle européenne ou peut-être même mondiale?
Ah, c'est une bonne question. Je ne peux malheureusement pas vous donner le gisement de l'emploi du marché vélo en France parce qu'on ne le connaît pas. Assez secret, on va dire. Mais en tout cas, en termes d'innovation, on a des marques qui sont clairement leaders. Je parlais de l'intégration des batteries. Il faut savoir que l'intégration des batteries, à la base, c'est une idée française. Mais aussi maintenant, on a tout ce qui est connectivité, les GPS intégrés, par exemple, les trackers. Tout ça, les entreprises françaises sont à la pointe, clairement. Alors ça se voit pas forcément à travers les ventes sur le marché. Vous voyez pas forcément... je ne vais pas citer de marques, mais vous ne voyez pas que des marques françaises circuler sur nos routes. et nos chemins. Mais en termes de développement technique, la France, effectivement, avec l'Allemagne, sont à la pointe. Je peux vous le confirmer.
Autre question peut-être dans la salle, je scrute. Oui, autre question, je vous écoute. Question un petit peu territorialisée. Alors Olivier, la question est la suivante. Un vélo comprend beaucoup de pièces métalliques. À quand peut-être une filière d'un vélo aluminium et pourquoi pas sur la base d'un approvisionnement Made in France, voire même mieux, Made in Savoie, puisque effectivement la Mayenne a la chance de compter un producteur d'aluminium.
Alors c'est un débat qui n'est pas nouveau. On peut retourner facilement à la question, êtes-vous prêt à payer un vélo 50% plus cher? Si vous êtes prêt, Si vous êtes prêt à payer 50% plus cher, bon, on va dire 30% si on prend un vélo de gamme. Si vous êtes prêt, on peut redémarrer la filière demain. Attendez, excusez-moi, mais j'ai un retour de son là, vous m'entendez?
On vous entend très bien, Olivier.
Voilà. Juste pour un petit rappel comme ça, dans les années 80, 90, le marché du vélo en France était un peu moribond, faut bien l'avouer. Et il s'est passé pas mal de choses en Asie, grâce au marché américain. En Asie, la Chine s'est vraiment tournée vers l'Occident et l'Europe et les exportations. Ils ont inondé le marché à travers les grandes surfaces alimentaires avec des vélos à bas prix. Vous avez certainement vous-même un vélo dans votre jardin qui vaut 90 euros. Bon, ça a servi et ça a plu à beaucoup de gens, sauf que ça a un peu tué le marché où les gens se sont dit, ah ben, un vélo, ça ne coûte rien. Si, un vélo, ça coûte, et surtout s'il est fabriqué en France. Donc ça, il faut remonter maintenant cette pente-là. On y arrive progressivement. Par exemple, il faut savoir, au Portugal, il y a une nouvelle Bike Valley, qui a émergé, où on commence à reproduire des cadres donc, européens en aluminium, mais aussi, et en acier, mais aussi dans les pays de l'Est, de l'Europe de l'Est. Effectivement, dans les années 80, on avait un vélo 100% français. Le dérailleur était un dérailleur français, le cadre était français, les roues étaient françaises, tout était français, hein, quasiment les pneus étaient français également. Et puis petit à petit, c'est parti, mais... Aujourd'hui, le marché est tel, est tellement tendu qu'on peut difficilement envisager de recréer la filière en France. Mais on peut, juste pour finir, on peut quand même considérer que l'assemblage français est un gage de qualité certain, puisqu'il répond à des normes extrêmement strictes, les normes ISO, qui fait qu'aujourd'hui, même si l'assemblage de pièces vient de partout dans le monde, à la fin, le savoir-faire est quand même français.
Voilà, donc en tout cas, on ouvre de nouvelles perspectives et de nouvelles réflexions. Merci Olivier, merci très sincèrement pour cette contribution et cette lecture du marché national qui effectivement ouvre bien le champ du possible et nous montre qu'il y a de réels potentiels donc, sur cette activité vélo à l'échelle de la France et bien sûr à l'échelle ici du territoire qui nous concerne. Encore merci, avec en plus les aléas de la technologie, vous avez su parfaitement passer au-dessus et on garde en mémoire en tout cas l'ensemble des données que vous nous avez apportées.
Merci à vous.